Joseph. Alors Joseph, il est mis un petit peu à toutes les sauces. Mais il reste souvent le personnage en retrait de Noël. Dans les crèches, par exemple, il est souvent placé un peu derrière Marie. Joseph, on en viendrait presque à le plaindre, avec tout ce qu'il a dû avaler. Vous savez, il y a une chanson, je crois que c'est Georges Moustaki, non, hein, c'est ça, qui chante la chorale. Vous allez m'aider. Les paroles sont assez éloquentes sur la façon dont nous traitons Joseph, ce bon vieux Joseph, ce pauvre ami Joseph. Comme dit la chanson, finalement, Joseph n'a pas eu de chance en choisissant Marie. Il a été bousculé dans sa tranquillité de vieux charpentier. Sa voie était pourtant toute tracée. Il devait épouser cette jeune femme pour envisager une suite de vie paisible. Il aurait eu des enfants, il aurait transmis sa passion du bois à ses fils, il aurait marié ses filles au mieux. Seulement voilà, cette vie tranquille et balisée a été bousculée par une sacrée tornade appelée Jésus. Vous savez qu'on donne des noms aux tornades maintenant. Eh bien, à l'époque, celle-là, elle s'appelait Jésus. Alors, je vous invite de partir à la rencontre de Joseph, qui reste de toute façon un personnage central de la nativité. Vous savez, la nativité, c'est quand Jésus vient au monde. Pourquoi je dis central? Qui est là quand Jésus vient au monde, dans l'étable? Qui est là? Joseph, Marie, l'âne et le bœuf. Alors, en fait, dans les évangiles, il n'y a pas d'âne et de bœuf. Donc, ça restreint un petit peu. Il reste donc Marie et Joseph. Donc l'âne et le bœuf, ils viennent plus tard, dans ce qu'on appelle la tradition, hein, dans les siècles qui suivent. Mais dans les évangiles, vous pourrez les relire, il n'y a ni trace d'âne, ni trace de bœuf. Alors nous comprenons bien que tout l'enjeu de ce début de l'évangile est de donner une genèse à l'histoire de Jésus-Christ. Alors les jeunes, qu'est-ce que ça veut dire une genèse à l'histoire de Jésus ? C'est quoi la Genèse ? Vous connaissez le livre de la Genèse dans la Bible ? Il est à quelle place ? Au tout début. Donc quand on dit il faut donner une Genèse à une histoire, ça veut dire on veut essayer de donner un début. D'accord ? Un début à l'histoire, un commencement. Il faut que Jésus ait une naissance légale. Et légale à la généalogie qui a été annoncée. Joseph, fils de la maison de David, accueille Jésus dans sa lignée. Ce récit est le fruit d'une longue élaboration narrative. Il fallait répondre aux deux critères annoncés. Jésus devait venir d'abord de la maison de David et il fallait qu'il naisse, qu'il soit fils d'une jeune fille. En Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 7, le verset 14, « Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La jeune femme sera enceinte et elle mettra au monde un fils. Elle l'appellera Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. » Revenons donc à Joseph. Nous venons d'envisager deux options pour cet homme. Soit il est un peu le personnage transparent de l'histoire, soit il sert de décor, pour devenir l'alibi davidique de Jésus, afin que le nouveau-né soit d'une bonne naissance qui colle à l'annonce d'Ésaïe. Ces deux saints Joseph-là sont un peu fades, à mon avis. Et je vous invite à en rencontrer un autre. Joseph, l'homme torturé. Imaginez un peu ce que cet homme a dû endurer à son époque, avec cette nouvelle qui bouscule un ordre social bien établi et qui dérangeait en plus ses propres plans pour son avenir. Marie se trouve enceinte par le fait du Saint-Esprit, nous dit l'évangile de Matthieu. Marie se trouve enceinte par le fait du Saint-Esprit. Imaginez un peu. En fait, on ne peut pas imaginer. Il est très difficile de nous imaginer cela. Alors, ce qu'on peut imaginer, c'est la tempête intérieure que cette nouvelle a dû déclencher pour cet homme. Même le texte de l'Évangile en est tout chamboulé, avec cet étrange verset qui n'explique rien du tout. Vous avez entendu, Daniel l'a lu, « Joseph, son fiancé, est un homme juste et ne veut pas accuser publiquement Marie. Alors il décide de la renvoyer en secret. » Donc, d'après le texte, Joseph serait juste parce qu'il observe la loi qui permet le divorce dans sa situation. Ou alors juste parce qu'il se montre juste vis-à-vis d'une innocente qui va de toute façon renvoyer. Ou juste parce qu'il ne veut pas passer pour le père de l'enfant divin né du Saint-Esprit. Ce verset n'est pas clair du tout. Le texte ne nous permet pas de trancher. Et puis cette idée de renvoyer secrètement. Comment une répudiation peut-elle être secrète? Alors il voulait vivre avec Marie sans être vraiment son époux? Le texte s'embrouille. Le texte s'embrouille comme l'esprit de Joseph, au même moment quand il a dû apprendre cette naissance. Combien de nuits sans sommeil a-t-il dû passer à bâtir des hypothèses? Nuits de sueur et d'insomnie à questionner son avenir et celui de Marie et de l'enfant qu'elle porte. Mais finalement, Joseph est bien le juste, comme nous dit le texte. Car dans la tourmente qui le saisit, il ne perd pas le fil, certes emberlificoté, mais il garde la confiance. Il décide de ne pas se séparer de Marie, de ne pas la condamner, et de la garder auprès de lui. Joseph préfère le secret des cogitations intérieures à la gesticulation publique. Et Joseph le juste, au milieu de ses insomnies, va recevoir une réponse de l'ange. En songe, on nous dit. Joseph, descendant de David, ne craint pas d'épouser Marie, car c'est par l'action du Saint-Esprit qu'elle attend un enfant. Alors Joseph va se raccrocher à cette parole et il va en vivre. Joseph, le charpentier tranquille, va devenir le juste intranquille, poussé à l'exil. Il est beau ce Joseph. Il est beau quand on se donne la peine de lui donner un peu d'épaisseur et quand on sort des idées à contre-courant. Il est l'homme à contre-courant. Finalement, il est le digne père de son fils, à contre-courant. La venue du Saint-Esprit le bouscule. L'irruption de Jésus dans sa vie va le transformer. Son premier Noël à lui ne se fera pas dans la quiétude. Et dans ce temps de l'Avent, je vous invite à être rejoint par Joseph, le juste, intranquille. Il nous touche, car il prend le risque d'être bousculé. Mais il choisit la confiance. Avant même que Jésus soit là, il lui dit oui. Comme Marie l'a fait quelques mois avant, à l'annonce de la nouvelle. Jésus est le premier homme témoin de l'Évangile. Excusez-moi, Joseph. Joseph est le premier homme témoin de l'Évangile. Jésus n'est même pas encore là, qui lui a déjà dit oui et qui lui fait déjà confiance. Le temps de l'Avent, c'est le temps des traditions bien établies. La couronne, le calendrier, le sapin, la crèche, l'organisation des repas. Nous avons tous et toutes nos rituels de l'Avent. Et c'est bon, car ces rituels nous rassurent. Mais malgré tout, nous le savons, l'Avent ne fait pas fuir la réalité des choses et de nos vies. Nos peurs, nos incertitudes ne font pas de trêve à Noël. Et parfois même, ils sont exacerbés. Il y a dans l'imagerie ambiante de Noël une paix et une sérénité forcées qui sonnent parfois faux dans les questions de nos nuits. Aujourd'hui, Joseph l'intranquille trace pour nous un chemin nouveau. Celle de l'intranquillité assumée et acceptée. Vous connaissez peut-être la théologienne Marion Muller-Collard, dont je vous ai déjà parlé en chair ici, qui a écrit un livre qui s'appelle justement « L'intranquillité ». Je vous lis un morceau de la quatrième de couverture. « Aux tranquillisants, je préfère les intranquilles. Et si vous êtes d'un naturel serein et posé, je ne voudrais en aucun cas introduire ce petit caillou dans vos âmes tranquilles. » Quoique, peut-être que je vous souhaite d'être un peu dérangé. Tout du moins, je vous souhaite le petit inconfort, la pointe d'impatience, le frémissement qu'il faut pour reprendre la route millénaire qui étire la patte humaine et la révèle à elle-même. Et puis, un autre tout petit extrait sur la naissance de Jésus. J'aurais aimé une recette du bonheur, un guide, un manuel de vie, j'aurais aimé un Dieu gourou à la parole claire. Au lieu de quoi, à son origine, l'Évangile me flanque un nouveau-né dans les bras et me dit « Voilà ton Dieu ». Parce que tu es fragile, il s'est fait lui-même fragile. Tu comptes sur lui ? Tu as bien raison. Et parce que tu comptes sur lui, il compte aussi sur toi. Nous ne sommes pas en terre de certitude, nous sommes sur un chemin de confiance. À chaque pas, tu remises tout. Il n'y a pas de oui une fois pour toutes. Si tu cherchais la tranquillité, assurément, tu fais fausse route. Le Fils de l'homme n'arrive pas dans le calme d'un foyer bien tranquille. Il vient, entre autres, grâce à la confiance d'un homme qui endosse le rôle du père adoptif pour accueillir cet enfant extraordinaire qui le poussera d'ailleurs très vite après, encore dans l'intranquillité sur les chemins de l'exil. Vous savez, pour fuir les menaces d'un roi fou qui veut tuer tous les enfants garçons premiers-nés. C'est dans cette acceptation de l'inattendu que Joseph, en quittant son existence balisée, laisse de la place au Christ dans sa vie. Et c'est dans l'acceptation de l'intranquillité sur nos propres vies que dans ce temps de l'Avent, nous pouvons nous aussi nous laisser rejoindre par Jésus le Christ et vivre ce paradoxe radical, ce paradoxe d'un Noël vécu dans la joie, mais aussi dans les larmes. Ce paradoxe de s'accepter, d'accepter les autres dans la douceur, mais aussi dans les sueurs d'une humanité emberlificotée. Tel Joseph, notre riche ami, le juste intranquille. Amen.